franceinter.fr.
Autrefois, les gens vivaient, mouraient même pour quelque chose. Dieu, la patrie, la révolution, l'honneur. Aujourd'hui, on vit comme des veaux. On fait des études, on passe des diplômes, et pourquoi? Pour fabriquer, pour vendre, pour acheter des produits. Si c'est ça le bonheur, si c'est ça la grandeur de l'homme, c'est un monde idiot.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boys! Come see me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Dans la même classe, c'est sûr, ils auraient fait des ravages, drôles, indisciplinés, décalés. Côte à côte ce matin, un dinosaure à l'insolence d'un collégien et un collégien qui n'a pas besoin de diplôme pour réussir. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est un peu notre parrain et toutes les occasions sont bonnes pour l'inviter à un tournage, un film, un livre et cette fois un festival. L'étrange festival qu'il a choisi dans sa théma à la liberté ou à la mort. Bonjour Jean-Pierre Mocky.
Bonjour.
Au Forum des images, vous présentez Solo, réalisé en 68, portrait d'une jeunesse contestataire qui passe à l'action, une violence qui annonce celle des années de plomb, et un film passionnant et troublant à revoir dans notre contexte 2016. Lui a le même âge que vos héros, si jeune et déjà une vingtaine de films au compteur, mais toujours aussi frais et juste. Bonjour Vincent Lacoste.
Bonjour.
Non, le cinéma n'a pas abîmé votre belle jeunesse, preuve encore avec Victoria de Justine Triet, sortie prévue mercredi prochain. La rentrée cinéma démarre enfin, il était temps, avec des films et des thèmes ambitieux,
oui.
France, Voir du pays, Infiltrator ou Comancheria. Une carrière commence, Vincent Lacoste, et une autre semble ne jamais s'arrêter, celle de Jean-Pierre Mocky. Alors Jean-Pierre, un petit cours de longévité, s'il vous plaît, pour Vincent, comment on fait?
Bah, d'abord, il faut rester en bonne santé, avoir des rapports physiques, c'est ce qu'on vient de découvrir. D'ailleurs, en Italie, on s'est aperçu qu'il y avait des centenaires dans un petit village à côté de Naples et que la principale qualité de ces gens-là, c'est qu'ils faisaient toujours l'amour à 90 ans.
Oui. Ah.
C'est un élément déjà. En plus, il faut pas manger de viande, mais ça, je suis végétarien depuis fort longtemps et il faut manger des légumes, des fruits, des amandes, des trucs comme ça.
Mais à part ça, artistiquement, je voulais dire.
C'est très précis.
Artistiquement, il faut surtout se défier des producteurs, parce que les producteurs, aujourd'hui, ne prennent plus de risques. C'est-à-dire, ils attendent que la télévision, que les régions leur filent du pognon, les devises sont de plus en plus élevées. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à trouver tout ce pognon. Et moi, je vis avec mes acteurs, avec Gérard Depardieu, on est ensemble, en participation. D'ailleurs, je remarque que beaucoup d'usines ont continué à travailler alors qu'elles étaient en faillite, parce que les ouvriers se sont mis à travailler pour eux-mêmes. Donc voilà, nous on fait un peu ça, donc on arrive à tourner 2 films par an depuis très longtemps.
Mais Vincent Lacoste, vous...
Et on arrive à 100 films. Mais si vous voulez, quand on peut faire... Alors Vincent Lacoste débute,
oui,
mais
oui,
néanmoins il pourra continuer à travailler. Mais il ne faut pas être ambitieux. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que tous les grands réalisateurs, à commencer par Jacques Tati, a fait son premier film pour 9 millions d'argent. Monsieur Tarantino a fait à peu près la même chose aux États-Unis, mais beaucoup d'entre nous ont commencé avec rien. Lelouch, Un homme et une femme, Godard à bout de souffle, Truffaut, Les 400 coups, moi, Les dragueurs sont des films qui coûtaient rien du tout. Et brusquement, les gens se sont envolés et ils ont voulu faire des films de 10, 15, 20, 20 millions. J'ai appris que Camping coûtait 20 millions d'euros. Je suis effrayé par la connerie de ces gens-là. Il y a tellement de gens qui crèvent de faim et d'enfants, etc.
Vincent Lacoste, ça vous impressionne pas. C'est pas une question de budget pour vous, c'est une question d'histoire et de metteur en scène.
Ah oui, bien sûr, mais moi c'est très différent. Moi j'ai pas monté les films et tout ça, donc effectivement c'est un truc différent. Après, c'est vrai qu'il y a une chose réelle, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent pour les films d'auteur, en tout cas, pour les films qui se veulent artistiquement
avec une valeur artistique,
quoi. Vous l'avez senti sur Victoria, ça, par exemple, ou pas?
Victoria, ça s'est monté assez bien, parce que le film, mais par exemple, La Bataille de Solferino, je sais que ça avait été compliqué. Par exemple, il y a un producteur, Emmanuel Chaumet, par exemple, lui, c'est un vrai producteur qui monte les films alors que personne ne pourrait le faire, parce qu'en l'occurrence, la majorité de La Bataille de Solferino a été tournée
en direct
à Solferino pendant les élections de Hollande. Et ça fait une heure de film, quoi. Donc déjà, il y a peu de producteurs qui peuvent faire ça dans la place de Paris.
Ouais. D'ailleurs, on va revenir à Victoria, puisqu'on va commencer par la BO de Harry Nilsson, Without Her.
I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room and go inside and set a table for one. It's no fun when you spend a day without her. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. We burst the pretty balloon, took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now. And it sounds like a lie if I say I'd rather die than live without her. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. Love is a beautiful thing when it knows how to swing. Like a clock, but the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend another day without her. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. Do-do-do, do-do-do-do. Can't go on without her. Do-do-do, do-do-do-do. There's no song without her. It's all wrong without her.
Je le disais, près de 20 films depuis 2009, Vincent Lacoste, depuis ce fameux Beau Gosse, le cinéma comme un accélérateur de maturité, Astérix, Camille Redouble, Skylab, Hippocrate, le journal d'une femme de chambre, Saint-Amour. Vous contrôlez un peu la situation ?
Ouais, totalement. Mais vous savez, j'ai le temps de m'ennuyer beaucoup. Là, j'ai tourné pendant un an, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plein de films à un moment donné, et vu que c'est des petits budgets, en plus, ça prend pas longtemps, en fait. Donc, il y a moins de jours de tournage. Donc, en fait, ensuite, il y a beaucoup de temps pour...
Mais vous ennuyez vraiment, non, vous ennuyez pas.
Non.
On voit mal celui dans la vie.
Je m'occupe. Je fais des petites choses. Je bois des bières. Voilà.
Dans Victoria de Justine Triet, donc vous incarnez l'assistant, babysitter de Virginie Efira. Victoria, jeune avocate qui perpille entre la défense d'un ex-amant accusé d'avoir poignardé sa compagne et le procès qu'elle intente 7 fois au père de ses 2 filles, qui raconte un peu toute sa vie sur son blog. On va passer un extrait de presque la première rencontre où vous lui proposez du travail et vous êtes tous les deux dans son appartement.
Donc depuis que je me suis séparé de mon ex, j'habitais chez un copain. Et en fait, étant donné que j'ai arrêté de dealer, j'ai plus de quoi payer l'appart. Et en plus, j'ai repris mon apprentissage en pâtisserie. Mais en fait, mon rêve, vraiment, c'est de devenir avocat.
D'accord. Mais là, entre la drogue, la pâtisserie, l'avocat, c'est un peu... Tu vois.
Oui, non. En fait, c'est très simple. En fait, j'aimerais bien commencer les études d'avocat. Attends, et en parallèle, t'aider si t'as besoin.
Allô ? Bon, au prochain appel d'encouragement, je le lâche, ton cousin. Je peux dire qu'il aura du mal à trouver un autre avocat 24 heures avant l'audience. Ok ? Qu'est-ce que tu veux ?
Peut-être que je peux être ton apprenti, enfin ton assistant personnel.
Non mais je te dis que je cherche un babysitter, moi.
Oui, mais ça inclut ça aussi. C'est-à-dire, je pourrais être ton jeune homme au pair.
Là, t'as plus d'appart ?
Non, c'est vrai. Oui, mais entre autres, enfin, c'est pas du tout pour ça. En plus, je juge pas ton mode de vie. Tu peux laisser traîner tes petites culottes par terre. Je les ramasserai avec un grand plaisir. Non, pas dans ce sens-là. Je me suis mal exprimé.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que je pourrais être ton homme de l'ombre. Et je résoudrais tous tes problèmes sans que tu t'en rendes compte. Et ensuite, si tu veux, je peux aussi devenir ton assistant.
Vincent Lacoste, vous avez sursauté quand le téléphone a sonné parce que vous avez la même sonnerie.
Ouais, j'ai la même sonnerie, c'est marrant. Victoria, oublié cette sonnerie, ouais.
Victoria, une femme qui ne cesse de chuter, de se relever, une femme débordée. C'est pas du tout l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une cougar. D'abord, c'est pas une cougar.
Non, absolument pas. Non, il est absolument pas question de ça. Non. D'ailleurs, dans le film, on remarque même pas que je suis plus jeune.
C'est un petit peu quand même.
Bon, les gens m'ont dit que personne ne l'a dit.
C'est très gentil
pour
Georgine Effer. Bravo, c'est un bon camarade.
Et comme vous, elle vient d'un autre milieu que le cinéma. Elle s'est formée à la télévision. Ça se passait comment tous les deux sur le... Parce que je crois que Justine Triet est assez exigeante et demandait pas mal de prises.
Ah oui, mais bon, après ça, on est acteur, on va très sincèrement, le peu qu'on travaille quand même sur le plateau, on va pas rechigner à faire plein de prises quand même, parce que sinon à ce moment-là, autant rester chez soi quoi. Non, mais non, c'était très bien, et puis surtout Virginie, elle est très franchement, elle est très malléable et tout ça, donc ça va. Après, c'est vrai qu'on faisait 25 prises, bon, au bout d'un moment. Mais c'était assez agréable en fait, parce que Justine nous disait constamment que c'était génial. Du coup, on est quand même rien que des acteurs, donc on nous dit c'est génial, on est comme ça marche totalement quoi. On est extrêmement heureux, sauf qu'ensuite elle dit c'est génial, mais je vais en refaire encore 30 autres. Et ensuite, bon, donc, on en refait, et puis au bout d'un moment, on se dit tiens, peut-être que au final, c'était pas si bien au début, mais bon.
Vous avez jamais autant mûri dans un film, à l'intérieur même du film.
Ah ouais, bah c'était le point de, c'était le truc de départ, les lunettes, très important les lunettes.
C'est-à-dire?
Ah ben les lunettes, c'est comme, si vous voulez, ce Superman qui enlève son costume, quoi.
Ouais.
Tel Clark Kent. D'ailleurs, je pense que c'est une référence. Non, et en fait, ben oui, c'était un truc de... Il fallait que le personnage change et évolue, en fait, entre la première et la deuxième partie du film. Et on a trouvé cette petite astuce des lunettes, mais aussi des trucs assez discrets par le costume, machin, ouais. Tout ça. Mais c'est ce qu'elle voulait raconter, en fait. Parce que au début du film, Victoria ne voit pas, et du coup, le spectateur aussi, c'est-à-dire ne voit pas ce Samuel, en fait. Mm. Et il se découvre et il apparaît au fur et à mesure du film, en fait.
Il y a de l'improvisation dans la façon de tourner du film ou pas? Parce qu'on a l'impression, à entendre la scène là,
c'est vrai qu'on dirait que c'est improvisé.
Oui, ouais.
en fait, pas du tout. C'est ça, c'est vachement écrit.
Ah, c'est une possibilité. on va laisser parler.
C'est extrêmement bien joué. Non, mais en fait, c'est absolument pas improvisé. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Ça, c'est par exemple, à mon avis, la 30e prise, par exemple.
Au cordeau, le même dialogue répété 30 fois.
Le même dialogue, ouais, carrément. Non, ça. Alors peut-être que je rajoute des petits trucs et tout ça. Virginie aussi. Mais sinon, non, c'est très écrit. Au contraire, non, en fait, elle demande toujours de casser le texte. Parfois, elle refait même faire une phrase plusieurs fois jusqu'à qu'on en oublie totalement le sens. C'est sa technique, quoi. Elle tourne énormément, quoi.
Riyad Satouf m'a appris à ne pas faire semblant, à être simple et juste. Vous gardez cette règle depuis le début?
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, Riyad, après, il m'a appris beaucoup de choses, hein, quasiment, là, je dois dire, tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il m'a, il m'a appris à essayer d'être simple et juste, à essayer de pas faire semblant, quoi.
Et jouer à l'instinct, toujours, mais en travaillant pas mal en amont?
En travaillant, mais l'instinct, il vient aussi en travaillant. C'est-à-dire que quand on doit faire un personnage très différent de nous et tout ça, l'instinct vient en travaillant au départ, avec le metteur en scène, avec le soi-même aussi, machin, en se référençant et tout ça. Et ensuite, on arrive à un truc qui est quasiment naturel au sein d'une autre personne. Quoi. Enfin...
Quand je disais accélérateur de temps, le cinéma, c'est vrai, parce que vous avez eu des sacrées expériences, comme là, vous sortez. Je pense que quand on a joué avec Boulevard et Depardieu, on sait tout faire derrière.
Ah ouais. Bah là, en tout cas, j'ai plus peur de rien, là, en effet. Non, mais surtout, après, il y a plusieurs situations de tournage et tout ça, et là, en l'occurrence, eux, là, c'était vraiment une prise, c'est des YOLO, hein, quoi. Enfin, là, c'est-à-dire, on est... YOLO, ça veut dire You Only Live One Life. C'est... En gros, ils en ont rien à branler, quoi, pour faire plus simple. Donc, en fait, il suffit d'y aller. Il y a une prise, un plan pour une séquence. Voilà, on en fait 10 d'affilée. Puis ensuite, voilà, quoi. Ensuite, on va manger.
Je disais que vous maturiez dans le film. On écoute un deuxième extrait, ouais. Où en fait, elle n'a pas compris qu'elle vous impressionnait.
Tu trouves que j'ai une sexualité virile?
Ben, non. C'est pas comme si on avait beaucoup pratiqué.
Tu penses que je suis un monstre froid et calculateur?
Bah tout le monde l'est un peu.
Bah non, pas toi. Ah non, toi t'as zéro ego, t'as aucune malveillance, t'es quelqu'un de bon toi, vraiment.
Bah non, pas du tout. Je pense vraiment que tu te trompes, je suis pas quelqu'un de bon. Alors je possède rien, c'est peut-être ce qui me rend sympathique, ou inoffensif d'ailleurs. On aime bien les gens qui ont l'air inoffensifs.
Bah, moi je t'apprécie pas du tout pour ces raisons-là, enfin c'est pas ce que je ressens. Je t'apprécie pas parce que je me sens supérieur à toi.
Moi, je sais pas. Mais si tu m'apprécies, même si c'est pour les mauvaises raisons, c'est déjà ça de prix.
Je t'apprécie pour tes qualités humanistes. En tout cas, tu représentes une zone de non-danger pour moi. Enfin, c'est devenu une priorité.
Ouais, je sais pas comment je dois le prendre.
Bien.
Victoria, Justine Triet, ça vous fait quoi de vous entendre, Vincent Lacoste?
Oh, je préfère m'entendre que de me voir.
Hein. Ah oui.
En l'occurrence, là ça va, ça fait un peu âpre le film. Là, le film n'est pas comme ça. Des fois, il y a de la musique qu'on entend. D'ailleurs, là, il y a de la musique, des animaux, il y a plein de choses, de l'action. Mais là, oui, c'est une scène, ce qu'on appelle une scène de vexation, quoi. C'est très vexant, ce qu'elle me dit. Je veux dire, là,
pourquoi,
on m'a jamais dit ça. Ah bah, dire à quelqu'un qui est attiré par vous que vous êtes une zone de non-danger, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est le contraire. Déjà, des fois, quand on est amoureux de quelqu'un, on a peur de pas être rock'n'roll et de machin et d'être trop installé. Alors, si en plus, là, carrément, c'est clairement dit comme ça, là, c'est scandaleux, quoi.
On peut parler de la scène d'amour ou pas?
Bien sûr, bien sûr.
C'est la première. C'est-à-dire que voilà, je vais vous faire une confidence. Il y a 6 ans, on aurait ri.
Il y a 6 ans, j'avais 14 ans.
Non, pas 14 ans.
Enfin, non, j'avais, il y a 6 ans, j'avais. Non, j'ai 23 ans. Il y a 6 ans, j'avais. Calcul de tête, 17.
Oui. Bravo. Non, mais d'un coup, vous en êtes capable.
Ah, ben bien sûr. Tout le monde en est. Enfin, je veux dire, c'est. Ben, ça,
crédible.
Bien sûr. Crédible. Ah ben j'espère en l'occurrence que dans la vie quand même, que quand il m'arrive de temps en temps de faire l'amour aussi, j'espère que je suis crédible et que je suis pas genre tiens quelle tête il fait là quand même. C'est parce que j'ai fait des comédies quoi.
Ça vous a pas embarrassé?
Non, bon aussi c'est toujours un peu embarrassant les scènes de sexe, mais enfin c'est toujours un peu embarrassant en l'occurrence. Là c'est vrai que j'avais fait surtout des scènes de sexe masturbatoires, ou alors oui. J'étais plutôt tout seul, ou alors j'avais des problèmes quoi. Mais là c'est assez gênant. Mais en même temps, là, c'est assez amusant, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on se prend au jeu et tout ça. Enfin, non pas sans ambiguïté, hein, mais en fait, au bout d'un moment, ça devient comme une scène à jouer, en fait, quoi. Ce qui est gênant, c'est quand on arrive avec le peignoir, ensuite, on doit se dessaper, bon, voilà. Voilà, on est à poil, il y a 30 personnes dans cette pièce, il fait très chaud. Bon, ça, c'est un peu gênant. Mais après, Justine était très marrante parce qu'elle était à moitié nue aussi, parce qu'il faisait très chaud. Elle nous disait, oh là, elle parlait pendant la prise, elle disait, oh là, c'est bon là. Waouh, ah là, continue, ah voilà. Allez, ah, voilà, ouah, embrassez-vous là. Allez, je suis les seins. Waouh, ah, continue. Donc du coup, c'était assez marrant, ça faisait un peu que truc porno, c'est assez marrant. Quoi.
Et encourageant en même temps.
Et encourageant.
Oui.
Exactement comme si une petite voix vous disait quand vous faisiez l'amour. Allez, vas-y, t'es génial, allez, putain, c'est bien ce que tu fais.
Jean-Pierre Mocky, vous avez une scène d'amour en tête que vous avez jouée et qui vous reste gravée.
J'en ai fait beaucoup. Ouais. Beaucoup dans La seule n'a pas de poche, Albatros, dans plein de films, dans L'ombre d'une chance surtout, et ben beaucoup. Mais ça fait partie du métier, mais, de faire ça. Et quelquefois, je connais une actrice qui est connue, je vais pas donner son nom, mais elle était metteur en scène et elle jouait avec un jeune comme Lacoste et le type était un peu maladroit. Mais elle était le metteur en scène du film, alors ouais. Elle a dit, ben vas-y vraiment, et ils ont fait l'amour devant toute la troupe.
De Victoria Justine Trier qui sort mercredi prochain. On passe à l'étrange festival jusqu'au 18 septembre, 22e édition. Déjà, du plus atypique des festivals, celui du cinéma décalé ou extrême, au Forum des Images et au cinéma Les Fauvettes, avenue des Gobelins, à Paris. Dans le 13e, il faut saluer la passion et la très grande curiosité de ses organisateurs. Une compétition dans laquelle on retrouvera notamment Bill Plimpton, Sonotion ou Jodorowsky, mais aussi des docs, notamment sur Mappel Torp ou Frank Zappa, des focus sur Shoei Mamoura, un hommage à Zulawski, ainsi que le Gaumont et 14 de ses productions étranges. Et bien sûr, le thème à la liberté ou à la mort, dans lequel vous figurez Jean-Pierre Mocky avec ce film Solo. On est en train d'écouter la BO magnifique de ce film de Moustaki. Une magnifique flambée rouge et noire avait écrit Jean-Louis Borry dans Le Nouvel Observateur de l'époque 1969. Solo, on va résumer en deux mots. Jean-Pierre Mocky, vous êtes dans ce film violoniste et trafiquant de bijoux à l'occasion de ses voyages. Vous vous appelez Vincent Cabral, il débarque au Havre, tandis qu'au Vésinet, une vingtaine de participants d'une soirée orgiaque est soudain abattu à coups de mitraillette. Le jeune frère de Vincent, votre personnage Virgile, appartient précisément au groupuscule responsable de ce massacre. Vous avez réalisé ce film pendant ou juste après les événements?
Mais ça s'est passé exactement parce qu'on a vu deux jeunes parler de ça dans un bistrot. Ils disaient, il faut pas arrêter la révolution, on va tuer les gens, ils sont dégueulasses, les bourgeois sont dégueulasses, etc. Alors c'est ça qui a inspiré le film en fait. Et c'est un film qui est arrivé juste derrière Z de mon ami Costa Gavras. C'était à l'époque, on faisait des films comme ça sur une révolution qui avait foiré, quoi. Parce qu'on n'était pas en 1789. C'est une fausse révolution, là, mai 68. C'était tous les 68ards sont devenus de vieux pantouflards maintenant. C'est des vieux cons maintenant. Et c'est ça la différence avec Robespierre, Danton et Saint-Just. Donc, cette révolution avortée complètement. Mais il fallait montrer qu'une partie de ces jeunes ont continué. Ils ont continué, ils n'ont pas voulu abandonner, mais comme ils étaient tout seuls, ben, finalement, ils ont disparu peu à peu. Et voilà, donc, c'était pas vraiment du terrorisme, parce que c'était un terrorisme intérieur, c'était pas le terrorisme qu'on connaît aujourd'hui.
C'est du terrorisme c'était quand même.
Jeunes, c'est quand même du terrorisme. Ça annonce les brigades rouges et...
Terrorisme politique.
Oui, mais oui. Ils ne tuaient pas pour Dieu, ils ne tuaient pas pour des raisons de... comme le font les islamistes, c'était pas du tout pareil. Hein. C'était des gens qui luttaient contre des salopards, mais des salopards de toute race, pas forcément des blancs ou des noirs ou des... Alors, bon, évidemment, le film a été très très discuté, mais il y a quelque chose tout de même, si vous lisez les critiques, vous en avez lu une oui, tout à l'heure, ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que le soir de la première, tous les chefs de parti de Giscard d'Estaing, en passant par tous les autres, sont Mitterrand, tout le monde est venu voir le film. Bah, et alors, les critiques, en allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils ont tous aimé le film. Parce qu'ils voulaient tous changer quelque chose. Alors, comme c'est pas voulaient changer quelque chose.
Il y avait même, je vais vous en lire une autre de critique, il y avait même Maurice Clavel, philosophe chrétien, qui dit « Il n'y a dans le film aucune allusion expresse à Dieu, sinon que nos braguettes lui deviennent, je cite, inhabitables. » Je suis pas sûr qu'ils soient rendus compte de ce qu'il écrivait. « Et cela aussi nous frappe. Il serait temps de trembler. » Voilà ce que disait Maurice Clavel sur votre film. C'est-à-dire que lui, il voit l'absence de Dieu dans ce film, il voit un film
alors,
métaphysique.
Sur Maurice Clavel, paix à son âme. Certes. Mais quand nous avons fait le film, il a effectivement écrit ça.
Dans Paris,
moi, je l'ai vu dans un quart de police en train de supplier les flics de ne pas le tuer. Alors, c'est un peu anachronique, parce qu'il était dans un quart de police, moi aussi d'ailleurs, et il hurlait, ne me touchez pas, me faites pas mal, etc. Donc, non, si vous voulez, c'est pour vous dire, on a eu des critiques formidables, parce qu'on a vendu le film pour 2 millions d'euros, vous vous rendez compte, dans le monde entier, parce qu'à ce moment-là, il y avait la bande à Bader, les Brigades Rouges.
Alors,
il y en avait partout des gens comme ça.
Alors que c'est un film qui a coûté, à l'époque, 500 000 francs, c'est-à-dire que ça veut dire 70 000 euros actuels, et vous avez dit, on pouvait faire 40 Borsalino avec cette somme-là.
Oui, mais on a gagné une fortune, et d'ailleurs, tous les comédiens jeunes qui ont tourné dedans ont gagné 5 ou 6 fois leur
c'est
salaire,
ça.
Parce qu'ils étaient en participation. Si vous voulez, le problème, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire de ce film. Mais surtout qu'à Cannes, on l'a présenté de nuit, il y avait 2000 personnes. Enfin, ça a été un grand, grand moment.
On va écouter un extrait quand même de ce film, à force d'en parler. Dans une voiture, entre vous, votre personnage de cambrioleur, un peu anard sur les bords, enfin qui est plus intéressé par l'argent que par l'action politique, vous discutez avec un des jeunes garçons de ce groupe d'anarchistes.
Alors mon petit bonhomme, maintenant qu'on a semé les flics, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Vésinet ? Et qu'est-ce que mon frère vient faire là-dedans ?
Le Vésinet, c'est nous.
Qui c'est à nous ?
Notre groupe. Virgile, moi et un autre copain, une fille qui sert d'agent de liaison et les gars qui fournissent le matériel. On a décidé de tout faire péter, de tout casser.
Voilà un bel objectif et qui ne manque pas d'ambition. Et où voulez-vous en venir exactement ?
Supprimer tout ce qui sent l'argent, tout ce qui est pourri, corrompu. Il n'y a que les jeunes pour purifier le monde.
Et vous pensez parvenir à ce noble objectif en bousillant quelques gros pleins de soupe qui s'envoient à des petites pétasses de 15 ans ? Mais demain matin, quand ils seront enterrés au Père-Lachaise, d'autres gros pleins de soupe les remplaceront. Faudra les bousiller aussi. Vous n'avez pas fini.
Faut bien faire quelque chose. Les partis politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent des colloques, des meetings, on fait des discours, on signe des pétitions. Il faut tirer dans le tas si on veut que ça change.
Tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais un révolutionnaire. Je militais vachement avec des gars qui, aujourd'hui, sont devenus tous des pantouflards. Enfin, je te dis ça. Je suis pas le gars qui donne des conseils.
Parce que d'après vous, il y a une solution, peut-être.
Sûrement. Ce sucré. Toi, tu veux changer la société, moi, je l'exploite. Il y a partout des belles femmes avec des bijoux. Il suffit de les piquer. Partout, il y a de l'amour, du flouze, de la joie, du bonheur. Et tout ça en musique.
Vous êtes un parasite.
Un parasite qui t'attirait des mains des flics, camarade. Car vous êtes organisés comme des novices. Comment se fait-il que la police soit déjà aux trousses de Virgile ? Qu'elle te file le train à toi, malin ?
Vincent Lacoste, on est content parce que vous avez vu le film.
Eh oui, bien sûr.
Et alors ?
Très bon, non, mais très bon film, je dois dire. Mais c'est surtout, mais moi je vois pas trop ça comme un film sur le terrorisme. C'est plus un film sur la jeunesse et sur l'engagement l'engagement politique quand il est désespéré, quoi. C'est un truc où comme c'est vrai que ça a pas mal de résonance aujourd'hui en fait.
Et vous, vous
sauf qu'au lieu de faire Nuit debout, ils vont tirer sur des bourgeois, quoi.
Voilà. Mais vous, vous sentez proche du mouvement. Vous, comme acteur, vous vous sentez un peu exclu de tout ça ou vous sentez proche d'une certaines contestations.
Moi, je suis en effet acteur, mais j'ai beaucoup d'amis et les gens qui m'entourent ne le sont pas forcément. Donc, en fait, je fais aussi partie de la jeunesse d'aujourd'hui, même si je suis acteur et que j'ai une position qui est malgré tout privilégiée. Mais enfin, oui, bien sûr, je suis touché par ça, quoi.
Laurent, c'est intéressant de revoir Solo par rapport au film de Bertrand Bonello.
Bertrand Bonello,
qui n'explique lui pas grand-chose.
Qui n'explique rien, dont les personnages sont effectivement vides de sens, alors que c'est pas le cas dans le film de Jean-Pierre Mocky, même si certains sont plus ou moins expliqués. Il y a aussi dans Solo, ce qui est intéressant, c'est le cheminement du personnage que vous jouez, c'est-à-dire qui passe d'une sorte de cynisme total à une empathie réelle avec son frère et ses amis. Jean-Pierre Mocky.
Oui, mais c'est la famille. La famille, ça a toujours été quelque chose d'important. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est ces gens qui veulent détruire, non pas des gens parce qu'ils n'y portent pas les mêmes idées que chez les islamistes, ils ont des idées précises. Tandis que là, c'est les bourgeois, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient. Il n'y a pas de frontières. Donc, c'est un peu différent. Bon, ceci dit, ce film a apporté pour moi un avantage formidable auprès des jeunes, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des jeunes qui aiment le film à cause de ce qu'il représente. Donc c'est très bon pour moi.
Et il y a un jeune qui a passé les castings, mais que vous n'avez pas retenu à l'époque, qui s'appelait Patrick Devers.
Eh oui, parce que... Alors,
dans quel rôle c'était ?
Ma vie a été...
Bon, on peut pas toujours.
Alors j'ai eu plein d'acteurs, j'ai eu Patrick Devers, mais j'ai eu Gérard Depardieu, je l'ai refusé. J'ai eu Bellucci, j'ai eu tout ça, ils étaient mauvais dans mes essais, donc je les ai pas engagés. Mais j'en ai connu énormément d'acteurs. Il y en a que j'ai raté. Par contre, j'ai pas raté Christine Claude-Thomas, Juliette Binoche, toutes ces filles-là, je les ai trouvées, je les assez doux, tout ça, c'est moi qui les ai trouvées, mais il y en a aussi que je suis passé à côté. Et Patrick, c'était un type très bizarre. Et pour me faire pardonner, j'ai engagé sa fille plus tard,
une
fois qu'il avait disparu, Lola.
Vous l'aviez réellement proposé à Belmondo, le film ?
Oui, mais Belmondo et Delon étaient déjà dans un système commercial.
Borsalino,
et le fait de faire un film sur ce genre de jeunes, et ça leur plaisait pas. Ils avaient peur de perdre leur public, le public populaire, le gros public. Alors, ils ont refusé le rôle. C'est pour ça que je l'ai joué, d'ailleurs.
Vous étiez sacrément beau, hein, à l'époque.
Ouais.
Oh,
c'est très bel homme.
Que c'était un jeune homme... c'était un espèce de Marlowe, de Macron, en fait. Il était sur un bateau, un voyou, il faisait des bonnes femmes sur le bateau.
Oui, il fait des clins d'œil.
Il y a des clins d'œil. C'est un sacré film noir aussi. Je sais que votre modèle, c'est Bogart, mais on sent aussi que c'est influence.
Oui, parce que j'ai connu Bogart quand il tournait La Comtesse aux pieds nus. J'étais vaguement stagiaire dans le film, Mankiewicz. J'étais tout jeune, j'avais 13 ans, même pas.
Parce qu'on ne sait pas trop votre
âge. C'était à Monte-Carlo, ils ont tourné à Monte-Carlo. Mais j'ai connu Ava Gardner aussi. Mais alors, si vous voulez, tout ça, c'est un souvenir. Alors, en ce moment, je commence un film où je fais un vieux truand. Et avec Boringer, on fait deux truands. Et si vous voulez, là, c'est vraiment Bogart. C'est les films noirs de l'époque, de la grande époque, qu'on refait. Avec, tout le monde meurt dans le film. Parce qu'il y a tout le policier, tout le monde meurt.
Est-ce que vous considérez Solo comme l'un de vos meilleurs films ?
Non, pas le meilleur, parce qu'il a été tourné avec tellement peu de moyens. Vous savez, le début, le générique, il y a 104 plans, rien que dans le générique. Non, parce que c'est des petits bouts qu'on a mis dans le générique. Parce que quand ils abattent les gens, c'est fait avec pratiquement des petits morceaux, etc. Mais malheureusement, on n'avait pas de moyens. Donc le film est pas mal, mais il aurait pu être mieux. Et alors après, j'ai fait des gros films, comme Le Miraculé à Mort-l'Arbitre. À Mort-l'Arbitre, j'ai pu le faire parce qu'il y avait de l'argent. C'était les supporters et tout ça. Alors, Solo, c'est pas un mauvais film, c'est un film...
Ah non, c'est moins compliqué.
Vous savez, je vais vous dire, le type, moi j'ai mangé une fois avec des metteurs en scène que je citerai pas, mais qui sont tout le temps à Cannes. Ils sont très fiers de leur film. Ils sont sûrs que c'est formidable. Ce sont des cons. Pourquoi ? Parce que Nobody is perfect. On ne peut pas faire un film parfait. Parce que vous rentrez dans un décor, vous auriez voulu avoir, je sais pas, une couleur du décor, vous l'avez pas, parce que vous pouvez pas repeindre. Vous avez une fille, elle est pas bien, mais vous êtes obligé de la garder, etc., etc. Et finalement, vous ne faites pas le film parfait que vous deviez faire. Donc, aucun film n'est parfait. Donc, j'ai fait 100 films, mais j'en ai aucun de parfait.
On va passer un dernier extrait de Solo. J'adore cet extrait. C'est quand vous êtes avec, en fait, avec la fiancée de votre frère, qui elle aussi fait partie du groupe, et vous partagez toutes les deux une conversation sur l'amour, sur le mariage. Ouais.
Dès que le train s'arrête, je téléphone à Virgile.
Mais vous ne renoncez pas, vous?
Non, jamais.
C'est bien. Seul point commun entre nous.
Merci du compliment. Je procurerai de faux papiers à Virgile pour qu'il puisse partir le plus loin possible.
Trouvez-moi aussi, je partirai avec lui. On est grillé en France, mais on continuera ailleurs.
Ailleurs?
Oui. Dans tous les pays où il y a des hommes qui luttent pour une société où on ne serait pas esclave de l'argent. Vous pouvez pas comprendre ça, vous, qu'on vive pas pour gagner de l'argent.
Si. À vous entendre, je commence à le comprendre. Et de là à ce que ce soit une obsession, tu ne penses jamais à autre chose?
À l'amour? Non, jamais. Quand on voit où ça conduit les vieux, l'amour. On tombe amoureuse d'un gars, on voit la vie en rose, on se marie, puis on commence à remplir des papiers. Carnet de mariage, livret de famille, tout le bazar. On est fiché? Puis on cherche un appartement, on achète des meubles, on signe des traites. Et pour finir, on fait des gosses. On prépare la layette. Et on se retrouve en train de pousser un landau dans les jardins publics avec un air de rombière satisfaite.
Évidemment, genre bonne femme, ça ne te convient guère.
C'est dégoûtant, cette comédie. On lutte pour les gosses pendant les plus belles années de sa vie, puis après on te liquide dans une maison de retraite. T'as plus qu'à crever après avoir turbiné toute ta vie pour les autres. Voilà où mène l'amour. Moi, j'en veux pas.
Voilà, c'est un sacré film, il s'appelle Solo, présenté à l'étrange festival qui dure jusqu'au 18 septembre, cette 22e édition au Forum des Images, mais également au cinéma Les Fauvettes, sans oublier Vincent Lacoste, la sortie de Victoria mercredi prochain, mais vous restez avec nous bien sûr.
Mais bien sûr, juste un mot pour dire que la musique qu'on entend, elle est arrangée par Moustaki, mais c'est, Jean-Pierre Mocky nous le disait en micro, le chant des partisans, enfin l'équivalent du chant des partisans voilà, grecs,
c'est
une très belle musique.
Grecs qui chantaient ça pour, au moment de la révolution. D'ailleurs, ça a des points communs avec Z, puisque Z, ça se passait, ils l'ont tourné en Algérie, mais en fait, c'était les colonels qui étaient en Grèce.
Vous restez avec nous tous les deux après l'escope dérangé. On parle des sorties avec vous, Laurent. Qu'est-ce qui a marché cette semaine?
Eh bien, la première place du podium, c'est sur la plus haute marche, France de François Ozon, puis Éternité, nous allons y revenir, et enfin Bénure.
France, donc, de François Ozon, au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Franz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français Adrien est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles. Oui, l'histoire est le remake d'un film d'Ernst Lubitsch qui s'appelait Broken Lullaby, dont Ozon n'a pas à rougir puisqu'il s'est complètement approprié cette histoire qu'il a choisi de raconter du point de vue de la jeune veuve. Et au-delà de l'histoire, le film décrit fort bien le climat anti-français qui pouvait régner après la défaite de 14-18 et qui préannonçait le nazisme. Ozon n'a pas eu peur non plus d'assumer complètement le romanesque le rend de l'histoire, qui n'est jamais mélo, romanesque appuyé par l'image noir et blanc avec quelques incursions en couleurs subtiles glissé dans ce récit autour du mensonge et ses conséquences.
Oui, absolument. Moi, je n'ai pas vu le film de Lubitsch, je l'avoue humblement. Mais en revanche, j'ai songé en permanence à Ophuls. Et après tout, mieux vaut songer à Ophuls qu'à Émile Cousinet pour voir un film. C'est-à-dire que c'est quand même plus intéressant. Et c'est vrai, hein, franchement, je me permets qui. On est d'accord. Donc, il y a une maîtrise incroyable ici chez Ozon, dont le moins qu'on puisse dire, en tous les cas, à mes yeux, c'est que la filmographie est inégale, mais là, franchement, il arrive à une maîtrise cinématographique impeccable, dont vous avez déjà très très bien parlé, et notamment une maîtrise, alors, de la couleur, c'est-à-dire à la fois des noirs et blancs, mais il y a aussi des autochromes, on se croit revenu au premier temps du cinéma. Et puis, il y a l'irruption dans l'histoire d'un tableau de Manet,
oui.
Et qui est absolument sublime, car ce tableau, je n'en dirai pas plus, mais on le voit en quelque sorte sous deux couleurs, sous deux états, et c'est merveilleux, et c'est une idée de cinéma extraordinaire. Donc franchement, allez voir le nouveau film de François Ozon, parce qu'effectivement, il mélange une palette chromatique à la fois de cinéma et de sentiments qui est tout à fait bénéfique et agréable dans le cinéma français actuellement.
Avec Pierre Niney, une révélation qui s'appelle Paula Baer.
Exactement, une jeune actrice allemande dont on va, je pense, réentendre parler.
Aïe, 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 Éternité de Tranan révélé par l'odeur de la papaye verte, une saga familiale avec Valentine qui se marie à 20 ans avec Jules. Nous sommes à la fin du 19e siècle, à la fin du siècle suivant, une jeune parisienne, l'arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l'homme qu'elle aime. Entre ce moment, des hommes et des femmes se rencontrent, s'aiment. On dirait un pitch de Lelouch.
Ah bah oui, et oui, hélas. Alors d'abord, c'est un film qu'on a eu le bonheur de découvrir en salle, puisque on ne nous l'a pas montré. Quand je dis on, c'est une bonne partie de la presse française. Je suis pas sûr que ça soit la bonne façon de faire, parce que faut bien que les distributeurs et les attachés de presse sachent que quand il y a ce genre de blackout, tout le monde se dit, oh là là, le film est tellement mauvais qu'ils ne veulent pas le montrer à la presse. Et ben là, on avait gagné, effectivement, le film est tellement mauvais qu'ils ne voulaient pas le montrer à la presse. C'est d'après un roman d'Alice Fernet qui s'appelle, tenez-vous bien, L'élégance des veuves. L'élégance des veuves, moi, c'est un titre qui me met en joie, c'est comme la simplicité des escargots, ou je ne sais pas, ou la solitude des échelles. Enfin, j'en sais rien, mais c'est incroyable de bêtises. Et c'est une chronique sur une grande famille socialement très élevée dans la France des années 20. On ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas ce que font ces gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Il n'y a aucun rapport social, rien. On nous montre juste ces femmes qui procréent. Alors 5, 8, 10 enfants, deux fausses couches par-ci, une fausse couche par-là, un décès, des dialogues absolument réduits du genre « Maman, oui, ma fille, j'ai décidé d'entrer au Carmel. Tu es sûr ? Réponse. Et là, on passe à une autre scène. C'est d'une profondeur absolument pas sidérante et sidérale. On se croirait en permanence dans une pub pour Loulou, vous savez, le parfum. Tout est au ralenti, ou presque. C'est d'une vacuité absolue. Je ne sais absolument pas comment ce film a pu passer tous les nombreux obstacles qu'il faut pour faire un film au cinéma.
Comancheria de David Mackenzie. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais on fait un rapide rappel de ce film. À la mort de leur mère, on est au Texas, deux frères organisent une série de braquages visant uniquement les agences d'une même banque. Donc, ils n'ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale et comptent rembourser la banque avec son propre argent. Un scénario en diamant signé Taylor Sheridan et qui décrit si justement la paupérisation du Texas, ces familles harcelées par les banques pour payer des remboursements de prêts qu'ils ne peuvent assumer. Un film politique déguisé en western et en road movie sans jamais appuyer sa démonstration. Juste et surtout du cinéma et de la mise en scène à l'intérieur, efficace, fluide et de sacrés acteurs. Il y a Chris Ben Foster et Jeff Bridges. Un film à lui tout seul, l'humour et l'humanité dans un seul homme. Vraiment à voir.
Ça, c'est là où il vous plairait, Jean-Pierre Mocky,
ouais.
Pour vous. Des Robin des Bois qui piquent aux riches pour refiler aux riches.
C'est pas l'éternité qui va me plaire.
Ouais. Non, Jeunesse de Julien Samani avec Kevin Azaï, Jean-François Stévenin et Samir Ghesmi. Zico à Swab, d'ailleurs, c'est Kevin Azaïs. Il embarque sur un cargo au Havre. Très vite, les tensions avec le reste de l'équipage et les avaries à répétition mettent à mal ses rêves d'aventure et c'est adapté d'une nouvelle de Conrad Laurent.
Oui, c'est un premier film d'un jeune documentariste, et un premier film vraiment très très talentueux. Je pense que c'est une des bonnes découvertes de la semaine. Le trio tête du film, vous le disiez, c'est Kevin Azaïs, Samir Ghesmi et Jean-François Stévenin. Je les rappelle parce qu'ils sont formidables, vraiment très très bien dans un univers, évidemment, puisqu'on est sur un cargo totalement masculin. Il n'y a pas Ariane Labette, comme dans un autre film récent qu'on avait beaucoup aimé, mais ils sont tous les trois maîtres à bord, avec effectivement dans la figure du jeune homme qui essaye d'entrer dans la vie et qui voudrait bien la découvrir, Kevin Azaïs, il y a une vraie réflexion métaphysique, il y a un vrai voyage initiatique dans ce cargo à qui il va arriver évidemment une tempête, un incendie, des avaries, etc. Bref, la vraie vie, on sent effectivement qu'on rate derrière, mais sans que jamais on ne songe à une adaptation littéraire. C'est tout à fait prometteur pour un premier film. Jeunesse, ça s'appelle.
Voir du pays de Delphine et Muriel Le Coulin, déjà auteur de 17 filles, là encore des héroïnes plongées dans un milieu d'hommes. Un contingent militaire revient d'Afghanistan et s'arrête à Chypre avant de retourner en France. Un sas de décompression qui existe dans la vraie vie depuis 2008. Deux héroïnes, deux amies d'enfance dans cet univers masculin. C'est Ariane Labede, vous l'avez parlé précédemment, et Soko. Ouais. Les premières images sont folles, celles de ces deux soldats, de ces soldats, pardon, qui débarquent dans cet hôtel 5 étoiles, au milieu des touristes sirotant leur cocktail autour d'une piscine. C'est totalement surréaliste. À l'intérieur de ce sas, l'armée va faire revivre à ces soldats sous forme de jeux vidéo les combats et notamment une embuscade mortelle au cours de laquelle certains ne se sont pas forcément bien comportés. C'est donc une psychothérapie de groupe, non sans conséquence sur le contingent. Ça, c'est la partie la plus passionnante du film, c'est le premier film. Dommage que la deuxième partie, la virée dans Chypre, nous éloigne du véritable sujet, plus axé sur la guerre des sexes et de femmes victimes d'un gros machisme ambiant. Jusqu'à cette conclusion convenue.
Ah oui, je partage totalement cette façon duel de voir le film. C'est-à-dire, il y a une première partie très réussie parce qu'il y a un vrai sujet, là, pour le coup, cette espèce de résilience militaire. Ça, c'est vraiment passionnant à regarder. C'est très bien fait. Et puis, comme si Delphine et Muriel Coulin n'avaient pas su quoi faire, en quelque sorte, de cette situation de départ qui dure, heureusement, elles passent à autre chose. Et cette autre chose n'est pas intéressante.
Donc, il y a Soko et Ariane Labede, tout le monde en parle. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier la troisième, l'infirmière plus fragile, incarnée par une certaine Ginger Roman, ou Roman, je ne sais pas, propre fille de Catherine Ringer et de Fred Chichin. Belle présence.
Oui, c'est vrai.
Et qui promet vraiment.
Il faut le signaler, vous avez raison.
Rodéo de Gabriel Mascaro. Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes travaillant dans le milieu des vaqueradas, les rodéos traditionnels du nord du Brésil pour lequel ils préparent les taureaux. Et un membre de cette famille, lui, pendant qu'il fait ça, il rêve de devenir styliste. Qu'est-ce que c'est que ce pitch ?
Ah ben c'est un très beau pitch, vous savez, film brésilien, on se plaint souvent à ce micro de manquer de cinéma, ben là on n'en manquera pas en allant voir Rodéo, qui est un magnifique film, une magnifique histoire de ces gens, de ces nomades qui vont de village en village, de spectacle taurin en spectacle taurin, avec leurs chevaux, avec leurs taureaux, ça c'est très très beau, et il y a une attention portée aux personnages, mais aussi aux images. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des images, mais pas comme dans Éternité, des images vaines, des images qui ont un sens et où l'image prime en permanence sur effectivement le récit, mais avec beaucoup de d'allant et beaucoup de bonheur de à la fois d'image justement, oui, et de la façon, une vraie façon narrative de s'intéresser à des personnages qui n'ont rien de héros, mais qui sont des personnages de la vraie vie qui nous ressemblent. Et il y a un côté, effectivement, un bon mélange entre fiction et documentaire.
On a 15 secondes pour rappeler la ressortie de Topaz, Naïs et le Spoons.
Voilà,
le
plus beau, c'est Naïs avec Jacqueline Pagnol qui, hélas, vient de disparaître. Allez revoir Pagnol dans ses versions restaurées, c'est magnifique. Vraiment.
Des cadeaux pour nos invités, on va commencer par qui ?
On commence par Jean-Pierre Mocky, en lui offrant une revue qui s'adresse aux gens de 27 à 87 ans. Tout va bien, Jean-Pierre Mocky, c'est encore pour vous. Ça s'appelle le Schnock. Elle s'intéresse cette fois à Catherine Deneuve, c'est comme d'habitude.
Ben oui,
Catherine Agent Trouble, avec laquelle vous avez tourné ce très beau polar. Voilà, donc
c'est un trimestriel.
C'est un trimestriel et une revue formidable qui s'intéresse aux vrais faux marginaux du spectacle et du cinéma, notamment français. Un long entretien avec Deneuve et des beaux éclairages, dont notamment un de Jean-Paul Rapneau.
Et on se demande pourquoi Mocky n'est pas encore à l'affiche de ce magazine.
J'ai eu 20 pages là-dedans.
Dans les premiers, mais ça va revenir. Il faudrait vous consacrer plusieurs numéros à vous tout seul. Pour vous, Vincent Lacoste, ce film que j'espère vous n'avez pas vu, parce que non, on vous enviera de le découvrir, ouais. Des nouvelles de la planète Mars, le dernier film de Dominique Moll qui n'a pas rencontré, comme on dit, son public, et c'est bien dommage, et on espère que sa sortie en DVD chez Diafana permettra de rattraper cette erreur avec Vincent Macaigne et François Damiens. C'est un petit bijou de comédie satirique, drôle et féroce.
Merci à tous les deux, Vincent Lacoste à l'affiche de Victoria la semaine prochaine, et en ce moment et jusqu'au 18 septembre, l'étrange festival à Paris. La semaine prochaine, un film rock'n'roll, of course, avec quatre invités, notamment son protagoniste Henri Padovani. Merci tout le monde.
S'il vous plaît, vous nous retrouvez sur franceinter.fr.
Et au lieu de lire Jean-Pierre, on va vous convoquer pour le générique qui arrive tout de suite. Je vous fais signe.
Et vous voulez que je lise ? C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martin Messonnier s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Jean-Pierre Mocky, j'y étais.
Et moi, Vincent Lacoste, j'y étais aussi.